frappe est plus énergique, c'est ce que j'ai lu sur une interview, et une autre qui sera beaucoup plus douce et basée sur du R&B alternatif.
Ouais, bah R&B alternatif, c'est un peu, je pense, le style qu'on retrouve quand même majoritairement sur tout l'album. Effectivement, on est parti sur quelque chose d'un peu plus rappé, etc., parce qu'on l'avait déjà un petit peu exploré en live sur notre première config, et puis finalement, là, on en a un peu rajouté. Donc voilà, en fait, il y a quand même une trame principale sur l'album. Donc l'album parle beaucoup de renaissance, du coup de changement, de période de changement, de deuil aussi, qui peut concerner n'importe quoi, le deuil d'une personne ou d'une carrière, ou de voilà, réussir à passer à autre chose. Et donc ça part de l'innocence, donc c'est le premier titre de l'album, à la renaissance qui est le dernier. Voilà, c'est un album de 15 titres, donc c'est un gros album.
Oui, effectivement.
Mais on s'est fait plaisir, quoi.
Ouais. Et Nocturnal Animal, pourquoi ce titre ? Enfin, bon, j'imagine que c'est le nom d'un des morceaux de votre album, mais ouais, pourquoi avoir choisi ce titre ?
Bah parce que ça claque.
Bon, bonne réponse, je m'incline pour le coup.
Non mais le nom d'un album ou d'un EP, c'est trop galère. Enfin, on en chie tous quoi. Trop faire. Ah non. Et puis ouais, là c'est tiré donc d'un titre de l'album qui correspondait assez à l'esthétique. Je pense qu'on voulait un petit peu voilà.
C'est du côté nocturne quoi.
Ouais, c'est ça.
Côté nocturne et puis qui va aussi, il y a des titres dans l'album qui vont avec, et dans l'idée aussi de, ça parle d'insomnie, voilà, de moments de nuit quand même beaucoup dans l'album.
Ouais. Et donc vous avez dévoilé récemment un des titres de cet album, Lonely at Dusk, un clin d'œil, c'est ce que vous aviez expliqué, aux femmes qui subissent beaucoup de crasse dans le milieu de l'industrie musicale. C'est du vécu.
Alors c'est pas trop des crasses, enfin ça parle pas vraiment de ça, ça parle plus de devoir s'affirmer en tant que femme un petit peu plus dans le milieu musicien N, parce que bah c'est une réalité que voilà, même si c'est de plus en plus présent, il y a quand même beaucoup plus d'hommes dans ce milieu, et du coup c'est plus un encouragement aux femmes. En fait bon, je me parle beaucoup à moi-même sur ce titre, mais voilà, ça encourage à continuer à se battre pour défendre son univers. Et voilà, ça parle de toute cette adrénaline que ça peut créer.
Ouais. Alors Pablo avait remarqué aussi quelque chose de particulier sur votre clip, notamment quelque chose qui t'avait, qui t'a marqué, quoi.
Ouais, ben, je sais que vous avez bossé avec Julien Philippe, du coup, qui est un réalisateur tourangeau et qui fait beaucoup de VFX, de choses comme ça. Et je sais que plus quand on est à une échelle locale, on fait des clips un peu plus fait maison. Et là, vous avez fait quand même un truc beaucoup plus produit, j'imagine, avec plein de fonds verts et tout. Genre, comment ça s'est passé ? Genre, quelle était votre, j'imagine, première expérience avec des clips comme ça ? Genre, comment vous avez ressenti cette expérience, quoi ?
Bah, c'était super, parce qu'en fait, déjà, Julien Philippe, sur les tournages, il est là avec très peu de matos. Donc, au final, c'est quand même très DIY.
Qui le rend encore plus fort d'ailleurs.
Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas eu de réel fond vert de tout clip. Si. Parce que nous, du coup, avec Jérémy, il y a des plans de nous deux. Et en fait, on a fait ça sur l'île au quart, sur un terrain vague à côté d'un terrain de basket avec plein de gens autour. Et il n'y avait pas de fond vert à part une sorte de.
On portait
une sorte de fond vert qui faisait un mètre sur un mètre. Quoi. C'est pas un réel fond vert, mais voilà, s'il y a très peu de matos, quoi.
Bah ouais, moi en tout cas, en fait, on a tourné ça en différé puisque les emplois du temps n'étaient pas du tout raccord. Mais du coup, ils ont tourné en extérieur, mais moi, on a tout tourné dans mon salon. Okay. Donc toutes les prises où je suis dessus, c'est dans mon salon. Et là, pour le coup, on avait fait un fond vert. Voilà, et tout est fait au fond vert.
Mais c'est marrant ce truc-là, j'ai l'impression qu'on retrouve pas mal ça dans votre musique aussi, de donner une impression de grosse production, mais tout en restant très DIY. Enfin, je sais pas comment s'est passé l'enregistrement de l'album aussi, si c'était aussi dans un gros studio ou si c'était genre dans un truc beaucoup plus petit, beaucoup plus personnel, quoi.
Bah non, du coup, tout était fait à la maison, mais du coup, il y a une volonté de sonner gros, bien produit.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est grâce à Antoine Aubier, notre ingé son, enfin l'ingé son qui a mixé l'album. Qui a vraiment fait un super taf.
Est-ce que c'est un peu ça, du coup, quand vous parlez d'alternatif ? Genre, est-ce que c'est ce truc un peu DIY que vous recherchez ? Ou... Parce que du coup, c'est vrai qu'on peut parler de scène alternative, mais des fois, ça ne veut pas dire grand-chose, genre de dire pop alternatif. Genre, je vois... Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le mot alternatif, à côté d'un style de musique, quoi ?
Pour moi, alternatif, c'est mélanger des styles. et s'inspirer de différentes régions, que ce soit en texture sonore ou en style musical. Et puis en plus, peut-être aussi se comparer à la scène indé, et qu'il y a un truc de, en fait, de totale liberté, de justement pas être obligé de suivre les codes, ou si on veut pouvoir les suivre, et de pouvoir s'amuser.
Toujours jongler avec les trucs, quoi. Trop bien.
Ok. Avant de vous quitter, alors d'abord je te laisse partir, effectivement, Constance, parce que toi tu dois te préparer, effectivement.
Merci.
Non, mais merci pour ta présence vraiment sur le plateau.
Bah,
vraiment.
Merci à vous.
Moi j'avais juste deux petites dernières questions à poser à tes camarades, et je suis sûr qu'ils ils rempliront parfaitement leur office.
Et bah, je leur fais confiance. Bah, merci beaucoup.
Merci beaucoup, hein, Constance. Merci. J'avais deux dernières questions à vous poser. La première, c'est à quel Thelma est-ce qu'on doit s'attendre ce soir ? À celui que l'on connaît habituellement ? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous dévoiliez quelques petites surprises liées à votre premier album ? Voilà. Qu'est-ce qu'on attend ? Justement, peut-être que je tease un peu la surprise.
Non, pas de surprise. Non, on a mis en place un nouveau set il y a quelques mois. On est en novembre, ouais, il y a quelques mois, qu'on a pu expérimenter un petit peu déjà sur scène. Voilà. Après, c'est vrai qu'on avait joué ici sur cette même scène il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Là, le live de ce soir n'aura rien à voir avec cet ancien live qui était proche de celui que tu citais aux Inuits, qu'on a fait aux Inuits. Voilà, aujourd'hui, on est plus énervé quand même sur scène.
D'accord.
Quand même. C'est moins posé qu'avant.
Ok, ouais. Très bien.
On peut dire ça.
Et donc, dernière question, quels sont vos projets à court et moyen terme ? Alors, la prochaine étape, je disais notamment, c'est essayer d'intégrer des dispositifs nationaux et de sortir un peu de la région centre. Et puis, deuxièmement, peut-être où est-ce qu'on vous retrouve, ou quelle est votre actualité d'ici peut-être la fin d'année ?
Eh ben, on va jouer normalement le 8 novembre au 9 Cube à Châteauroux.
Le 28 novembre au Temps Machine, à Tours.
Pour la release party.
La release party. Même s'il n'y aura pas encore.
Il n'y aura pas encore de CD. Puisqu'il sort en février.
Ouais.
Et le 14 décembre, si je ne dis pas de bêtises, à Zelrideau.
À Zelrideau, oui, je crois que c'est.
Je crois que c'est pour les potagers électroniques d'hiver, un truc comme ça. Mmh.
Ouais. Et puis après, normalement, on va sortir deux clips en début 2025.
D'accord.
Pour accompagner l'album.
Et la sortie de l'album, donc c'est quoi ? C'est février 2025 ?
14 février.
Ouais, c'est ça, 14 février. Notez bien, chères auditrices et chers auditeurs. Merci beaucoup, Thelma, de nous avoir accompagnés. Donc, Constance qui est partie tout à l'heure, et Jérémy, et ainsi que Paolig qui était encore avec nous pour ces quelques minutes supplémentaires. On passe à la suite.
Et bien évidemment, on a bien écouté du coup le rétro-planning de Thelma, hein, on pourrait suivre tout ça dans les mois à venir. Là, ils sont partis battre le record du 100 mètres pour être sur scène, hein, puisqu'il y a déjà du monde dans le troisième volume du Minotaur pour le concert qui va démarrer d'ici quelques instants, que vous ne pourrez pas suivre à la radio malheureusement, puisque nous recevrons d'autres artistes comme Gwendoline dans quelques instants. En attendant, nous écoutons Thelma avec le titre « In Silence ».
Sweeps away my suffering, and the water wraps me in silence. I'm blindfolded and my heart's beating. He guides me away from my violence. Looking through the window, 'cause loneliness makes me lose control. Sometimes I think I like it, then anger comes over me. She's sending me back to my reality. Wants to please come back. I want my home again. I want my home again. Dad, Daddy wants to please come back. I want my home again. I want my home again.
revolve around me. The glass, the light dazzles me. I'm fighting to forget my years. It's right, it's right, it's right, but it's real. So please come back. I want my home again. I want my home again. Dad, Daddy wants to please come back. I want my home again. I want my home again.
Vous êtes bien. Hey, vous êtes bien sur Radio Roco, la radio du Festival des Rocomotives. Je sais pas pourquoi je prends cette voix-là, hein, une voix un peu rétro années 90, à la, je sais pas, Antoine Decaune, tout ça là. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes en direct du Minotaur, le Minotaur qui accueille cette nouvelle édition du Festival des Rocomotives. Que vous retrouvez là cette émission sur l'ensemble de vos radios, hein, Studio ZEF à Blois, Radio Campus à Orléans, Radio Béton à Tours, Radio Résonance à Bourges, Radio Active à Amboise et Montlouis, Radio Dynamo à Leblanc. On reste dans le 36 avec Radio Ballistique à Châteauroux, puis à Limoges, direction Limoges, avec Bob FM. Nouvelle édition, une équipe encore plus étoffée cette année pour Radio Roco, qui ne tardera pas à recevoir les Gwendolines. Là, ils sont en route, ils se rapprochent, ils sont à 5, 4, 3 mètres, ils font le tour d'un poteau et ils sont là. Et c'est Patrice. Salut Patrice.
Salut Ludo.
Le Studio ZEF qui va les accueillir sur le plateau. Ils ont des jolis fauteuils blancs qui les attendent pour parler à nos micros. Ils ne nous ont pas ramené de petites bières. Ça, c'est dommage. On aurait pu leur faire un bon accueil finalement. Ah, merci. Alors, vraiment, le meilleur groupe que l'on reçoit aujourd'hui, c'est Gwendolines. Et je vous laisse avec Patrice.
Salut les Gwendolines. C'est Pierre, Mika.
Ouais, moi, Pierre ouais. Et Mika.
Ok, bon. Content de vous voir ici, aux Rocomotives, une première pour vous à Vendôme. J'ai eu le plaisir déjà de vous voir en concert à Orléans, au Pop-Up l'année dernière, puis cet été aussi à Blois, à la Fondation du Doute.
Ouais, ça c'était dur. Hein.
C'était dur, bah, parce que...
Ouais, il n'y avait pas grand monde,
Ah oui, à ce niveau-là, ouais, ça a presque failli être annulé avec le mauvais temps, ouais, c'est ça. Mais le concert était vachement bien.
Enfin, j'espère.
Très bien. Bon, le début de l'aventure de Gwendolines, c'était il y a... Un peu moins de 10 ans, c'est ça? C'est vieux, déjà?
C'était quand?
Hein? Non? Moi, j'ai lu ça, que vous vous étiez rencontrés il y a une dizaine d'années pour faire de la musique.
Il y a 12 ans, un truc comme ça.
Ouais, ok. Puis vous avez enregistré un premier album en 2017, qui restait un petit peu, un long moment sans répercussion. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu une petite Gwendolines mania. Enfin, je sais pas, c'était quoi le déclencheur? C'était les titres Audi RTT, Chevalier Ricard, quand on commençait à tourner
Bah, ça a mis du temps, ouais, le moment où nous on l'a mis juste sur Bandcamp comme ça, sans grand intérêt. Il s'est rien passé, je sais pas, pendant 2 ans quasiment. Et après, il y a eu le Covid, il y a un label espagnol qui a voulu sortir le vinyle. Mmh. En parallèle, il y a Flo, qui est devenu notre manager, qui est un pote à Brest, qui a appuyé un peu, qui voulait absolument qu'on fasse des lives, nous on voulait pas. Et puis il a envoyé à Jean-Louis Brossard de Transmusical, qui nous a proposé de jouer. Et on s'est dit, pourquoi pas, voilà. Et c'est en fait après toute cette, enfin, comment dire, toutes ces étapes que bah, d'un coup, en gros, le vinyle est ressorti. Enfin, c'est sorti pour la première fois, du coup, en France, je sais pas, 3 ou 4 ans après avoir été fait, quoi.
Ok, donc c'est peut-être le passage au trans, du coup, qui a boosté le truc. Ouais. Et s'il n'y avait pas eu ça, vous auriez tout de même continué ?
Ah non, bah, on n'avait pas commencé. Enfin, on a fait juste un... Enfin, ça s'arrêtait à partir du moment où on avait mis les morceaux sur Bandcamp, quoi.
Ouais.
Ouais.
Et vous vouliez pas aller plus loin ?
Non.
Ok, d'accord.
Non.
Et là, maintenant, vous vous retrouvez à tourner depuis quelques années. Il y a un deuxième album qui est sorti au mois de mars, cette année. Donc, ça y est, c'est parti à fond. Vous êtes de tous les festivals, beaucoup de dates de tournée.
Ouais. Bah ouais, il y a pas mal de trucs... Et surtout, même ce qui était bizarre, enfin, c'était étonnant, c'était la première année, on a fait déjà direct plein de trucs.
Ouais.
Et du coup, là, on était. Enfin, c'était bizarre de partir d'un projet qui était vide et rien, et pas d'ambition, et pas de. À un truc où on s'est retrouvé sur même les gros trucs. Enfin, des gros festivals
gros
direct,
festival, ouais.
En mode bah, petite scène et tout, mais quand même, c'était bizarre d'appréhender ça. Et là, aujourd'hui, c'est. Peut-être moins des super gros trucs avec des, tu vois, des genre c'était rock en scène, des trucs comme ça, quoi.
Ouais.
Et c'était bizarre de faire ça dans un premier temps en termes de festival et en termes de découverte. Enfin, je sais pas, c'était super bizarre. Et aujourd'hui, bah là, on fait plus de dates, mais on bouge plus loin. Et c'est plus de route et de matos à transporter aussi.
Voilà. Mm-hmm. En tout cas, on fait ça maintenant, oui. Ça a changé pas mal, quoi.
C'est ça. Une cinquantaine de dates à peu près cette année.
Je sais pas trop. Oui, ouais. Si, c'est de... Non, moins cette année. En fait, on n'a pas sorti l'album au meilleur moment, quoi. Enfin, c'était en mars.
Ouais.
Donc forcément, pour faire les programmations, tout ça, c'est un peu tard pour les festivals d'été. Du coup, on commence vraiment la tournée. Enfin, on a eu des dates quand même, mais on a l'impression de commencer la tournée vraiment depuis septembre, quoi.
Ah, je me suis trompé. C'est pas 50. En fait, j'avais noté que c'était votre troisième date, 33e date de l'année. Et c'est les 33e locomotives. Donc, hasard du calendrier, magnifique.
C'est beau.
Vous connaissiez le festival avant d'arriver ici, avant nous ?
Ouais.
Ouais.
On a des potes qui avaient joué là il y a. Bah, c'était après le Covid, les SNEU.
Ok. Ouais.
Et voilà, moi j'avais connu grâce à Victor qui est mon coloc, mon colocataire d'ailleurs à Brest.
Ouais, très bon souvenir d'un concert de Les Snows à la Chapelle Saint-Jacques, c'était vraiment bien. Pour revenir à vos chansons, vous avez des textes avec des chansons très noires, très désabusées. Est-ce que le regard que le public porte, enfin, est-ce que le public a le même regard que vous sur la société, parce que vous la décrivez quand même de manière très... Très noir.
Bah, c'est dur de savoir exactement ce que pense le public, mais quand même, on fait souvent, enfin même tout le temps, maintenant après les concerts, on va au merchandising, enfin on vend des vinyles et discuter avec les gens. Mmh. Et globalement, bah après je sais pas, c'est des discussions individuelles, mais moi globalement, les gens me disent plutôt « Ah c'est bon, ça fait du bien », je sais pas, comme quelqu'un qui a de la violence en lui, qui ferait de la boxe et après il serait tout détendu par exemple.
Ok, ouais.
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus ça, le fait de se dire tous ensemble ce truc de ça va pas, après c'est bon, on oublie.
Ok.
Je le vois un peu comme ça, moi.
Mais c'est vrai que c'est, vous voyez quand même la vie un peu en noir. Est-ce qu'il y a des choses bien gays qui vous sont arrivées récemment ?
Il y a plein de trucs, mais comme tous les trucs de musique décident de, enfin pas tous, mais beaucoup décident de parler de ce qui va bien, bah nous on a fait autre chose parce que ça nous faisait chier que les gens parlent tout le temps de ce qui va bien.
Et ça fonctionne.
Et
bien.
Puis en fait c'est aussi que de parler des trucs qui vont mal te permet de trouver des biais un peu humoristiques des fois, de pouvoir en rire, de pouvoir... Enfin nous quand on écrit ça nous fait du bien quoi, de lâcher ça, de le dire. De, ouais.
Comment ça, vous composez toujours ensemble ou c'est chacun de son côté et puis après vous mettez en commun?
On fait beaucoup de boucles ensemble sur des boîtes à rythme, machin. Et après, sur l'écriture, on essaye de se rejoindre sur un moment. C'est pas forcément un truc super écrit. C'est des moments où une sorte de champ lexical d'un moment. On va être d'accord sur un sujet et puis on va se marrer à être celui qui va faire rire l'autre.
Et pour se faire rire, on part souvent d'aller dans des choses les plus noires, les plus, enfin d'aller puiser un peu au fond.
Ouais.
Et souvent, au bout d'un moment, ça nous fait rire, quoi.
Et les titres de vos albums, ça a aucun rapport avec les noms des chansons. D'où vous les sortez? Après c'est Gobelet ou c'est à moi ça?
Après c'est Gobelet, c'était le gars qui servait le au bar où on passait beaucoup de temps à ce moment-là.
Ouais.
Et c'était là, un peu avant la fermeture, et il nous a dit bah après c'est Gobelet les gars.
Ok.
Et du coup on trouvait ça marrant.
Genre ça reflétait un moment, c'était pas mal le moment où tu te fais tâche du bar et où tu pars avec ton truc en plastique.
C'est ça. Ok.
Ça collait bien au morceau.
Et c'est à moi ça.
Ça c'était une idée assez bête à la base, mais c'était juste l'idée de faire des stickers c'est à moi ça et de les coller partout, genre je sais pas, sur le matos des autres groupes, sur les partout quoi. On trouvait ça chiant, débile. Et après en fait on s'est dit ça peut résonner avec l'album vu qu'on parle pas mal quand même de propriété privée machin. Plus peut-être un deuxième grille de lecture de bah, ce truc-là, on l'a fait nous-mêmes quand même, globalement, tout autoproduit. Il n'y a pas de studio, il n'y a pas d'arrangeur, il n'y a pas de... Donc voilà, cet album-là, il nous appartient. Il y avait aussi ça, quoi.
Vous faites tout chez vous, donc à Brest, c'est ça?
À Brest, ou... Bah, le deuxième, on l'a fait à Lampol-Ploirzel.
Ok. Joli port de pêche.
Hein?
C'est un joli port de pêche.
Ouais.
Ouais. Bah c'est bien, bien à l'ouest, voilà. Et puis on a trouvé une maison pas trop chère pour longtemps. Du coup, on a débarqué là-bas avec le matos qu'on a pour enregistrer. Bah voilà, c'est pas forcément à Brest.
D'accord. Bah,
on bouge un peu, quoi. On va dans des endroits pas chers pour avoir un où on peut faire plein de bruit.
En fait, à Brest, c'est compliqué parce que on a des soucis avec nos voisins tous les deux. Les appartements sont très mal isolés vu que tout a été construit à la va-vite dans l'après-guerre pour reconstruire la ville, voilà. Donc du coup, c'est un peu la problématique sur laquelle on est en ce moment, c'est que on peut pas faire de bruit chez nous, quoi.
Et vous l'enregistrez à deux ou les deux musiciens qui sont avec vous sur scène, ils participent aussi, ils ont participé au disque, non?
Non, on enregistre tout à deux et puis après on mixe. On arrange, on mixe, on envoie. Par contre, le master, on l'envoie à des gens qui font des masters. Voilà.
D'accord. Bon, une dernière question pour terminer. Une petite anecdote ou un souvenir d'un concert que vous avez donné qui vous a marqué. Bon, j'ai lu l'article sur l'histoire de La Rochelle, ça m'a bien fait marrer. Il y en a d'autres comme ça?
Oui, il y en a d'autres.
Ah, ben, il y a une nouvelle, ouais.
C'est vrai?
Pas un nom, peut-être.
Ouais,
je sais pas si. Tu peux raconter.
Bon, je sais pas si...
Oh, vas-y, on sait pas très...
Bah, en gros, on jouait à Bailleul.
Bailleul.
À Bailleul, dans le nord, à côté de Lille.
Mm-hmm.
Mais en même temps, c'est pas... Ouais. Enfin, je sais pas si c'est...
Je sais pas, c'est toi qui... C'est toi qui...
Bah, voilà, et puis... Et en fait, on dormait à Lille. Et c'était un des premiers concerts avec un ami qui s'appelle Régis, qui drivait, qui nous aidait pour conduire, etc.
Mmh.
Et du coup, on allait poser le van du coup, à l'hôtel pour ensuite pouvoir aller boire des coups. Non. Et puis en fait, c'était au moment des élections législatives.
Okay.
Et du coup, on commence à boire des coups, mais en fait, on était fatigués. Du coup, on se dit, bon, bah, on y va. Et en fait, Pierre, il nous dit, non, mais moi, je reste, en fait. Et là, on se dit, OK. Et du coup, bah... On va dormir et puis on le laisse, quoi. Et puis bah, le lendemain, on l'a pas retrouvé. Et on a dû partir sans lui. Voilà.
Carrément.
C'était un peu flippant.
Vous l'avez laissé
en plan. Bah, en fait, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait rendre le van et on n'arrivait pas à le retrouver. Et on ne savait pas quoi faire, quoi.
Et t'avais comment vendu ton nom?
Je suis rentré. Après, j'ai pas dormi, quoi. C'est pour ça. Et puis j'avais plus de batterie. Bref. Bon, c'est pas bien. Et puis, voilà, à 15h, j'en pouvais plus. Et puis j'ai acheté du coup un truc pour recharger mon téléphone, un câble. Et puis je suis allé dans une auberge de jeunesse. Puis j'ai galéré, mais j'ai réussi à avoir une chambre. Donc là j'ai dit tout va bien, enfin pas, ça va en tout cas. Et puis j'ai payé plus que ce que j'ai gagné pour prendre un train le lundi matin pour rentrer à Brest. Voilà.
Bien, bien, bien. Bon. Moi j'espère que vous aurez une nuit plus calme ici à Vendôme. Hein.
Oui.
Il y a des légendes.
Il y a des légendes. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Rocco, des Radio Rocco, c'est ça.
Merci.
Qu'on entend partout dans la région. On va écouter un titre de votre dernier album, c'est Pignata. Merci, okay. Gwendoline.
Merci.
Merci.
Salut.
manger chez Freddy, manger des frites et des croquettes au poulet. Nutri-score zéro, 24 heures de canapé à remplir le cendrier. Toujours les volets fermés. Y'a son chien qui nous dévisage, il est sûrement plus malin que nous. D'ailleurs faut qu'on aille le promener. Des canettes à la main à zigzaguer dans la ville, comme des putains de zombies. Faut qu'on se tire de là. C'est qui ces gens trop stylés qui se prennent en photo partout, qui veulent devenir potes avec moi depuis qu'on fait des concerts. Ceux qui nous ont bien appris ce que c'était qu'à définition d'être une grosse merde quand ils nous ignoraient hier. Tous les soirs, c'est la soirée de l'année, même si les bars sont déjà fermés. Tous les soirs, on ira se noyer sur le trottoir devant chez Didier. L'after, c'est pas de...
C'était Bacchante dans Radio Rocco avec le titre Caillasse. Et ça tombe bien puisqu'on reçoit quatre Bacchantes derrière le micro. Et c'est Clémentine de Studio Zef.
C'est ça.
Qui va poser quelques questions. Salut.
Bonjour les Bacchantes.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je vais vous laisser vous présenter chacune et nous expliquer quels instruments vous jouez dans le groupe.
Eh bien, alors moi, c'est Amélie et je joue de la guitare électrique et je chante.
Moi, c'est Astrid, je fais de la batterie, flûte traversière et autres percussions.
Moi, c'est Faustine et je joue les claviers et je chante.
Claire, je joue de l'harmonium indien et je chante. Et plein de petits instruments aussi, flûteau irlandais et quelques petites percussions.
Alors, on vous accueille aujourd'hui sur le plateau de Radio Rocco, mais vous jouez demain aux Rocomotives. Vous êtes des habitués des Rocomotives, vous avez déjà joué ici pour votre premier album, si je ne me trompe pas, il y a quelques années.
Exactement.
Et vous êtes de retour cette année, puisque votre deuxième album, Pas un bruit, est sorti le 11 octobre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le style de musique que vous faites, puisqu'il est assez particulier?
Et tout le monde se retourne vers moi, merci les filles. C'est très collectif. Quel type de musique on fait? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt dans une mouvance rock. C'est assez difficile pour nous de coller un peu une étiquette sur la musique qu'on joue, parce qu'en fait, elle se déploie sur des temps très longs et on passe d'états assez différents. Du début du morceau à la fin d'un morceau, il peut y avoir plusieurs styles qui se déploient, j'ai l'impression. Donc, mais bon, s'il fallait mettre une étiquette, je dirais que c'est plutôt rock et chanson aussi, parce qu'on chante des textes.
Vous chantez d'ailleurs toutes les quatre, on entend vos voix toutes les quatre sur l'album.
Oui.
Est-ce que c'était quelque chose au départ, quand vous vous êtes rencontrés, ou l'importance de la voix qui est très présente dans l'album, c'était... Dès le début, vous saviez que toutes les quatre, vous alliez placer vos voix dans le travail que vous entamiez, ou c'est venu au fur et à mesure?
Dès le départ, on a toutes chanté ensemble. Ça s'est fait même lors de notre première rencontre, effectivement, et en se donnant la parole parfois. Mais il y a toujours eu quelque chose de choral, oui.
Les morceaux sont construits sur des poésies anciennes. Ce que j'ai trouvé très intéressant à l'écoute de Pas un bruit, c'est vraiment la façon dont les morceaux sont ciselés et qui donnent une beauté à certains mots. Ça met en avant les éléments, la montagne, la nature, la rivière. Et puis vous mettez en avant des anciens textes de poètes, alors plus ou moins anciens. J'avais envie que vous nous parliez par exemple du Cantique de la poussière. D'où vient ce texte et ces paroles?
Alors, Cantique de la poussière, c'est un poème de Griselidis Réal, qui, elle, est pas contemporaine puisqu'elle est décédée en 2005, mais donc du XXe siècle, qui était prostituée et écrivaine et poétesse. Elle a beaucoup écrit dans ces temps où elle était enfermée, soit en prison, soit à l'hôpital. Elle a eu des longs séjours comme ça. Des textes très forts, des poèmes, des romans autobiographiques, des journaux de son travail de prostituée et des poèmes, dont celui-ci, qui nous a beaucoup touchés et qu'on a eu envie de mettre en musique.
Et ces textes, comment vous les avez trouvés? Est-ce que toutes vous étiez à la recherche ou vous avez tout apporté des envies? Comment ça s'est fait, ce travail de choix?
Alors, généralement, c'est quand même plutôt Claire qui arrive avec des propositions de textes. Après, on les lit à haute voix, on essaie de les mettre sur la musique, voir aussi au niveau de leur musicalité, si c'est aussi ça peut rentrer. Enfin, voilà, s'ils sont musicaux, ces poèmes, et qui impliquent déjà le fait de pouvoir se mettre dans un morceau comme ça. Et puis après, là, sur cet album-là, on a aussi écrit un peu plus de textes que sur le premier album. Donc voilà, il n'y a pas que de la poésie empruntée sur ce disque-là.
Voilà, donc on a écrit quelques textes.
Et on a fait appel aussi à des amis également. Des amis, notamment Romain Marceau. Et
sur Kaya, ce qu'on vient d'écouter, voilà, c'est le ça. Texte de Romain Marceau, justement.
Et est-ce qu'il y a certains textes que vous essayez de mettre en musique et où ça matche pas ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'un texte va plutôt fonctionner ? Est-ce que c'est en fonction des instruments que vous jouez ou comment ça se fait ?
Je dirais qu'effectivement, c'est quand même souvent un riff de mélodique qui amène un texte, même si y a déjà une recherche préalable de texte qui, dans leur construction, ont quelque chose de l'ordre de la chanson, par leur rythmique, effectivement. Mais souvent, on compose ensemble et on écrit ensemble ou on trouve les textes ensemble dans la construction du morceau. Ça se fait quand même de façon très simultanée, le choix des poèmes. Donc il y a des poèmes qui ne fonctionnent pas du tout, effectivement, parce que là, le riff, ça ne va pas du tout se prêter. On a essayé d'ailleurs de rentrer plus de mots dans... Enfin, de casser ces rythmiques. Ça c'est pas fait. Mais il y a des différentes recherches, en tout cas, effectivement.
Et il y a toujours un moment où ce qui valide un morceau de Bacchante, c'est quand ça sonne Bacchante. Avant ça, des fois on se dit non, ça marche pas, c'est pas nous. Donc très souvent ces morceaux-là ne tiennent pas dans la durée. Quoi.
Oui, et puis c'est vraiment l'endroit où on est toutes d'accord, parce qu'on vient toutes d'univers assez différents et à un moment on arrive à tisser un langage commun. Quand on arrive à ça, c'est ce qu'on peut écrire ensemble, quoi.
Alors, j'ai pas écouté le premier album. Est-ce que le deuxième est dans la continuité du premier ou est-ce qu'il y a une sacrée différence ?
Tu veux y aller, Amélie ? Vas-y.
Je préfère quand les autres parlent. Mais oui, il y a une espèce de continuité avec le premier album. Genre, il y a certains morceaux qui auraient pu être mis dans le premier album. Mais on a quand même changé notre façon de composer et puis on a rajouté d'autres instruments aussi.
Je sais plus ce que je voulais dire. Après, oui, dans la composition de ce deuxième album, en fait, il y a des chansons qu'on a commencé à écrire et il y a déjà
4 ans.
5 ans au moins. Enfin, et du coup, qui étaient plus dans la dynamique de. On tournait encore donc, ce premier album à fond. Et puis voilà, donc il était très, ces morceaux-là étaient plus imprégnés de l'ambiance du premier album, qui est peut-être un peu plus rock dans l'esprit. Enfin, même dans le son du disque. Voilà, et là, du coup, ce deuxième album, donc Pas un bruit, il a été enregistré aussi par Étienne Foyer. Mais il a été mixé par une autre personne, Jonathan Salman, et du coup ça a apporté aussi une autre couleur au disque en lui-même, parce qu'il a produit un peu plus les choses, et puis il a aussi, il s'est permis d'arranger quelques petites choses qui nous ont permis de rebondir, ça nous a fait rebondir aussi pour le live. On a tenté de faire des choses un peu différemment aussi en live, grâce à tout ce travail en amont d'enregistrement. Donc c'était assez intéressant pour ça aussi.
Et vous jouez plein d'instruments différents. Il y a du kalimba, de la flûte traversière, de l'harmonium indien, entre autres. Est-ce que chacune, vous pourriez nous parler d'un instrument et de ce qu'il apporte un peu dans le paysage musical ? Je parlais tout à l'heure du rapport à la nature qui est très présent dans votre musique. Est-ce qu'un instrument, qu'est-ce qu'il représente dans ce paysage naturel de votre musique?
Je vais parler de la flûte, qui est moi mon instrument de petite fille, et je l'ai ressorti avec Bacchante. Ça faisait des années que je l'avais pas ressorti, et pour moi la flûte c'est un des premiers instruments qui a existé, en fait. Les flûtes, c'est vraiment très très lié à la nature et à tout ce que ça peut générer dans l'imaginaire, dans tout ce qui est féerique et tout ça. Donc, pour moi.
Moi, par rapport à guitare électrique, donc ça pourrait être peut-être un non-sens avec la nature. Mais quand on compose avec Bacchante, j'essaye de trouver des ambiances en fait avec ma guitare et pas jouer forcément que avec mes doigts, mais j'ai joué avec une baguette. Enfin, j'essaye de trouver des sons qui sortent un peu d'une guitare électrique.
Oui,
qui d'autre?
Je sais pas trop quoi dire sur mon instrument. je pourrais parler plutôt de la voix, moi, plus que des claviers. Enfin, même si j'aime beaucoup. Enfin, ouais, évidemment, j'adore jouer des claviers, mais je sais pas, la voix, moi, dans Bacchante, c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup. Le fait de jouer, de chanter toutes les quatre, d'apprendre à s'écouter aussi, beaucoup, ça a été beaucoup ça notre gros travail depuis toutes ces années qu'on joue ensemble. Et je trouve que c'est aussi par là qu'on entend aussi le plus nos identités. Parce que voilà, c'est aussi ça qui fait le projet collectif Bacchante, c'est aussi nos quatre individualités. Et je pense que dans la voix aussi, il y a quelque chose de très personnel dans la manière de chanter les mots, de chanter ensemble. Et je trouve que c'est devenu à la fois énergique et très délicat au fur et à mesure des années, parce qu'on sait vachement mieux s'écouter qu'au début, je trouve. Voilà.
Oui, la voix aussi. Enfin, moi, c'est plus ça, mon instrument de base, le chant. Et puis sinon, là, je joue de l'harmonium indien, qui va être une sorte de bourdon, de lien, qui va faire comme un fil.
Très bien. Et ben, merci à toutes les quatre. On pourra donc vous écouter demain sur aux Rocomotives de Vendôme. On va écouter le morceau « Aux fontaines ». Est-ce que vous pouvez nous en parler avant qu'on se quitte ?
Eh bien, c'est un morceau un peu répétitif qui parle de la sécheresse et que quand dehors tout est aride et tout est brûlant, eh ben, c'est pas mal de se baigner dans la rivière.
Eh bien, on écoute aux fontaines.
Ça dit comme ça, franchement.
Ça donne envie.
Ça donne envie d'aller se baigner. Merci pour l'invitation.
Merci. Thank you.
Les Bacchantes, donc, que nous venons d'écouter dans Radio Rocco. Hein. On rappelle, si vous êtes du côté de Blois et du 41, plus largement, c'est Studio Zef que vous capterez. Radio Campus à Orléans sur le 88.3, Radio Béton à Tours sur le 93.6, Radio Résonance à Bourges sur le 96.9, Radio Active qui est sur Amboise et Mont-Louis, Radio Dynamo à Leblanc et Radio Balistique à Châteauroux, ainsi qu'à Limoges, Bob FM qui retransmet aussi ce plateau en direct des Rocomotives. On vient d'écouter les Bacchantes qui ont sorti le 11 octobre dernier leur album Pas un bruit, hein, signature du label, Figure Libre Records qui, eh bien, pour ce week-end, fait des sessions Figure Libre Records. On recevait Thelma et Krenoka tout à l'heure qui sont actuellement en train de faire leur prestation scénique du côté du troisième volume du Minotaur. Demain, c'est donc les Bacchantes que nous retrouverons avec les Opaques. Et enfin, samedi, ce sera au tour de Jim Ballon et Trifouille Premier, hein, des têtes emblématiques du label Vendôme qui eh bien, gère aussi ce festival. Oui, très beau festival. L'album de Bacchantes est sorti le 11 octobre dernier. Chanson parlait d'eau. Eh bien, le 11 octobre dernier, dans le Vendômois, c'était un temps très difficile. Des crues ont fait sortir le Loir de son cours, arrivant même sur un des lieux emblématiques du festival des Rocomotives qui ne sera pas accessible cette année. Malheureusement, on a une grosse pensée pour le camping au cœur de Vendôme qui malheureusement n'a pas pu ouvrir ses portes et accueillir des équipages des Rocomotives et autres festivaliers et festivalières. On espère que ce camping pourra se redresser assez rapidement. Grosse pensée donc. Et un gros poutou au camping au cœur de Vendôme. Dans quelques instants, on fera un petit retour sur une table ronde qui a eu lieu cet après-midi qui nous parle de musiques actuelles en ruralité. Une session orchestrée par l'UFISC avec des membres du CNM, par exemple. Le CNM, c'est le Centre National de la Musique. Il y avait la DRAC, la Région, la Scène au Centre, le Jeep Café Culture. On aura peut-être un retour grâce à notre reporter tout terrain, Thomas, qui assistait à cette table ronde. Quels sont les tenants, les aboutissants? On en saura plus d'ici quelques instants. On va se faire une petite pause musicale à présent pour continuer dans Radio Rocco.
We'll be right back.
La région centre est bien fournie en talent, mais la région Rhône-Alpes aussi. C'était le cas avec les Hirnignons, ce qu'on vient d'écouter. Les Quatuors qui se sont produits à double session, hein, puisque remplacement au pied levé de la formation canadienne Alias, qui devait se produire samedi. Ça a rejoué lundi soir à la fabrique du Dr Faton en compagnie des jeunes angevins de Rest Up. On a du beau monde qui arrive là pour la suite de cette émission. On va parler musique actuelle et ruralité d'ici quelques instants. Les Hirnignons, donc, qu'on écoutait auparavant, là, en fond sonore, c'est Nicolas Cueil que nous écoutons, signature du label Tourangeau, un je ne sais quoi, qui s'est produit dimanche, ouais, c'était dimanche. Au 0 degré est à Les Roches l'Évêque. On s'en remet un petit coup.